Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'est au début du XVIIe siècle que, dans les ports d'une Europe qui y prenait goût, l'odeur du café s'est mêlée à celle des épices et des bois tropicaux. Et ce n'était pas l'arôme du petit noir du matin, ni les effluves d'une brûlerie qui parfumait les quais, mais, comme le dit l'un des intervenants de l'émission que nous allons entendre, les senteurs de terre et de campagne du café, pas encore torréfiés. En 1985, c'est dans le port du Havre que les chemins de la connaissance jetaient l'ancre pour le troisième épisode d'une série de cinq intitulée « L'épopée du café ». Marie-Christine Navarro y rencontrait un importateur de café et le directeur de la Société des receveurs de café qui lui exposait ce qu'était alors le fonctionnement du transport et du commerce des précieux grains en provenance d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Les avatars du goût, l'épopée du café, troisième volet d'une série de cinq proposée par Marie-Christine Navarro pour les chemins de la connaissance en 1985.
Terminal de l'océan, au port du Havre, avec Charles Paris, importateur de café.
Contrairement à ce qui se passait autrefois, où le navire était déchargé marchandise par marchandise, qui se trouvait en vrac dans les cales, c'est-à-dire en ce qui concerne le café, il y avait une équipe de dockers dans le fond du bateau, qui élinguait une quinzaine de sacs, que la grue remontait, mettait sur le quai. Ce café était repris sac par des équipes de dockers qu'ils chargeaient sur des camions pour être ensuite stocké dans les hangars. Alors actuellement, les conteneurs sont soit sur le pont du navire, soit à l'intérieur du navire. Au droit du navire se trouve un portique qui va chercher le conteneur qui se trouve élingué, bien entendu avec intervention humaine. Et le conteneur est dégagé du navire et remis sur le quai, soit directement sur une plateforme qui va l'emmener au lieu de déchargement, soit par un clerc qui prend ce conteneur qui pèse environ 25 000 kilos et qui va se trouver stocké jusqu'à son enlèvement. Le conteneur sera soit déchargé dans un hangar spécialisé, soit carrément mis sur un wagon de la SNCF pour être acheminé en ce qui concerne le café par exemple, chez un gros torréfacteur qui a la capacité de réceptionner de la marchandise par ces grosses quantités. Tout est automatisé et commandé par le docker qui se trouve tout là-haut et qui commande toute la manœuvre, donc même sans aucune intervention humaine. Autrefois, au grand bonheur des marins d'ailleurs qui pouvaient voir du pays, les bateaux en escale au Havre mettaient en moyenne 48 heures pour décharger. Maintenant, en 6 heures, l'opération est bouclée. Les marins ne voient même pas la ville. Ils sont arrivés au Havre. Ils sont au bout de ce bout du monde qui est le terminal de l'océan. Et le temps de surveiller les opérations de déchargement, ils seront repartis. Le bateau a dû arriver ce matin à 7 heures et à 13 heures, il va pouvoir reprendre la mer.
Charles Paris, tout à l'heure, quand nous sommes entrés ici, j'avais dit que je sentais une odeur particulière. Vous m'avez dit que ça vous rappelait des souvenirs.
Oui, ce sont des souvenirs d'enfance, ayant passé pas mal de mes vacances à la campagne et dans des fermes. Et on retrouve l'odeur de grenier dans le café vert, et pas tellement l'odeur que le consommateur est habitué à ressentir quand il passe par exemple devant une torréfaction. Je crois que l'odeur du café vert n'a rien à voir avec l'odeur du café torréfié. Le café est un produit agricole et ça sent la campagne. Les navires n'arrivant pas systématiquement au pied de ce hangar se retrouvent leur cargaison déchargée sur les différents quais où ils s'accostent Le café se trouve par une société interprofessionnelle, la Société des Ressorts de Café, maintenue tensionnée et regroupée dans cet ensemble de hangars mis à la disposition par les autorités portuaires aux professionnels du café. Jusqu'à maintenant, les cafés étaient regroupés dans ce hangar et repartaient en l'état vers les différentes destinations à la disposition des torréfacteurs français qui le traitent et le mettent en vente auprès du consommateur. Depuis quelques années, une évolution s'est produite dans l'industrialisation de la torréfaction et des fabricants ont mis au point du matériel très performant. Donc ces appareils performants torréfient en 120 secondes et nécessitent par l'importance de la marchandise traitée un achalandage d'une part et une évacuation d'autre part.
Je crois que le port du Havre a une particularité, c'est que la marchandise peut être entreposée ici pendant 45 jours, gratuitement, contrairement à d'autres ports du Nord, par exemple, européens.
Exactement. Alors ces cafés, quel que soit leur lieu de débarquement, sont regroupés, sont lotis, c'est-à-dire triés, mis origine par origine, série par série, pour que chacun puisse reconnaître les siens. Et la Société des Ressorts de Café, en accord cette fois avec les compagnies de navigation et les compagnies de manutention, a établi un forfait qui permet aux négociants, aux torréfacteurs qui reçoit directement sa marchandise ou aux négociants international, de laisser sa marchandise stationner au même endroit un minimum de 45 jours gratuitement, puis par la suite peut laisser indéfiniment pratiquement ses marchandises toujours au même endroit et jusqu'à sa mise à disposition de l'utilisateur. Mais actuellement sur le port du Havre, il y a 38 000 tonnes de café. Ce qui d'ailleurs est un record parce que le stock moyen est de l'ordre de 25 000 tonnes.
C'est d'ailleurs, après le pétrole, c'est la seconde matière première, je crois.
Si vous comptez la tonne en fait, de café sur la base actuelle, à peu près de 22, 23 000
Lucien
francs
Giguet.
Peut-être. Vous voyez qu'on doit arriver à quelque chose comme 6 milliards, c'est presque 7 milliards. Les receveurs de café ne font que recevoir des cafés qui ont antérieurement fait l'objet d'un commerce entre négociants. Nous attendons la marchandise. Lorsqu'elle arrive au port, le bateau débarque de marchandises, à partir de ce moment-là, nous rentrons en fonction.
Tout est une histoire de gros sous. La valeur du café est telle qu'un jour de stationnement supplémentaire aux prévisions nous coûte 1 centime du kilo.
Le délai doit être effectivement excessivement court pour permettre de rester tout à fait fiable vis-à-vis de la concurrence des ports étrangers. Vous avez là une installation qui est toute nouvelle, qui est le silo de rechargement des cafés en vrac. Le café est traité sans souffrir. Je dirais même que nous apportons un service au titre de ce rechargement en vrac qui est le nettoyage du café, nettoyage qui permet de servir quelque chose de propre. Et surtout, nous arrivons à couvrir complètement les prestations depuis le navire jusqu'à la remise sur les moyens d'évacuation dans l'optique d'un service qui ira donc du négociant jusqu'au torréfacteur.
Bon, alors la performance de cet appareil est de 40 tonnes à l'heure.
Là-bas, il y a justement, on est en train de décharger ou de... Qu'est-ce que l'on est en train de faire là-bas au fond du hangar, au niveau des cafés ?
Le café a été sorti de son conteneur, mis sur des palettes, puisque pendant toute la durée de son séjour dans le centre à café, le café restera sur la même palette qui est tarée et qui a un numéro qui lui est propre. Donc le café, une fois sorti du conteneur, est mis sur cette palette sur laquelle il restera jusqu'à la sortie du hangar. Et je pense que là-bas, ils empilent les palettes après avoir été, comme on dit dans le jargon du métier, gerbés sur la palette.
La Société des Ressorts de Café travaille traditionnellement avec des dockers. Bon, comme dans la plupart des entreprises aujourd'hui qui sont au port du Havre, il est bien certain que la spécialisation est devenue un fait et il est bien certain que parmi tous les dockers que nous utilisons, un grand nombre sont maintenant parfaitement habitués au trafic du café. Et c'est cette pratique habituelle qui permet à la société verseur de café, au travers des dockers, de pouvoir assurer un service de bonne qualité.
On croit communément que cette boisson échauffe et fortifie l'estomac, que c'est un puissant remède pour guérir les obstructions des entrailles et pour les humeurs froides du foie et de la rate. Et les expériences qu'on a faites en Angleterre, en Suède et en Danemark font connaître que le café n'est pas moins utile dans les catères et défluxions qui tombent sur la poitrine, dans l'ébullition du sang et dans l'abattement des forces, que contre l'hydropyphie et l'abondance de la bile, la corruption du sang et la perte de l'appétit. Monsieur Willis l'estime surtout pour la vertu qu'il a de guérir les maux de tête. Et il s'en est servi si souvent, et avec tant de succès, qu'il avoue qu'il n'emploie plus d'autres remèdes pour ces sortes de maladies. Il abat les vapeurs qui montent au cerveau et supplée si bien au sommeil qu'en prenant un verre tous les soirs, on peut veiller plusieurs nuits de suite sans en être incommodé. Monsieur Willis attribue tous ces effets merveilleux à la faculté de ce fruit dont l'écorce est chaude au premier degré et sèche au second. Le noyau en est tempéré, il dessèche pourtant toujours. Et c'est de là que vient cette grande maigreur dans laquelle tombent ceux qui en prennent avec excès. Mais si l'excès en est vicieux, l'expérience fait voir que cette boisson prise le matin à jeun avec un peu de sucre, et bien à propos, est très utile à la santé.
La chambre d'échantillon, il s'agit d'une pièce dans laquelle se trouvent regroupés tous les classeurs contenant les échantillons de tous les lots que nous réceptionnons. Alors tout à l'heure, nous avons vu les dockers en train de faire les opérations de manutention, échantillonnage, pesage. Ces mêmes dockers ont donc tiré à l'aide d'une sonde qui permet de retirer des échantillons dans chaque sac de café. Donc pour chacun des sacs, ou à peu près, un échantillon de la marchandise qui se trouve regroupé dans ce que l'on appelle en langage local une commune de café. C'est-à-dire un ensemble de la livraison qui représente à peu près 10 à 15 grammes par sac. Donc nous avons environ 5 à 6 kilos d'échantillons par lot réceptionné.
Et à quoi servent ces échantillons finalement?
Alors, ces échantillons, nous avons donc, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, deux communes. Une qui est dite libre, c'est-à-dire qui est simplement ficelée sans aucun cachet, et l'autre qui est cachetée. Alors nous ouvrons la commune libre, non cachetée, nous reconnaissons la marchandise, nous l'étalonnons, c'est-à-dire nous comptons le nombre de défauts, nous regardons la grosseur de fève et nous dégustons cet échantillon en ayant pris soin de prélever dans l'échantillon des fèves qui pourraient avoir un aspect douteux ou une odeur douteuse. Donc après dégustation, après triage du café, il se peut que la marchandise reçue ne corresponde pas à la désignation commerciale sur laquelle la marchandise a été achetée. Alors, d'où l'utilité d'avoir une commune cachetée, c'est-à-dire que nous demandons à notre vendeur un arbitrage. Alors là, il y a, je crois, une procédure assez spécifique au café, c'est que lorsque nous avons conclu notre achat avec notre vendeur, il a été convenu, suivant des usages européens, strictement propres au café, que, en cas de litige, les recours seraient exercés auprès d'une chambre arbitrale, c'est-à-dire un collège formé par des professionnels dans différents ports européens, Le Havre étant la principale place en ce qui concerne l'arbitrage des cafés, mais il y a également des chambres à Hambourg, à Londres, à Anvers, qui sont principalement habilitées à servir chacun des pays concernés. Voilà. Alors ça, il s'agit d'un café d'Éthiopie, un Mocha Jima, c'est-à-dire une qualité relativement ordinaire d'Éthiopie. Mais il faut reconnaître que ce pays, qui est un pays africain, un des plus gros producteurs de café, d'ailleurs, il est à noter qu'en Éthiopie, le café est pratiquement uniquement récolté à l'état sauvage, c'est-à-dire que chaque petit fermier a autour de sa hutte quelques caféiers, et tous les jours, étant donné que la floraison ne se fait pas simultanément sur tout l'arbre. Au fil des jours, il cueille les cerises mûres et va les porter à la coopérative qui traite le café. Et le gouvernement éthiopien, il faut lui reconnaître le souci de qualité, interdit toutes les exportations de café de trop bas classement. Alors là, vous avez devant vous un Jima, qui est la plus grosse production de l'Éthiopie, et qui est quand même un très bon café. C'est un Arabica, c'est un café très fort. Alors ce café, à première vue, il est conforme. L'employé chargé d'approfondir le problème le triera, le criblera. Voyez-vous, là, nous avons des cribles de tous les diamètres. Voilà un autre échantillon, également en provenance d'Éthiopie. Alors là, il s'agit d'un café lavé. C'est-à-dire que le café a été cueilli en cerise dans une certaine région de l'Éthiopie qui est au sud de l'Éthiopie, qui s'appelle la région de Sidamo. Ce café, une fois cueilli, a été décortiqué. C'est-à-dire que la cerise, dans laquelle se trouvent deux grains, est concassée. Et à ce moment-là, sort deux fèves qui sont entourées d'une parche. À ce moment-là, le café est traité par eau, c'est-à-dire qu'il est, il est dans des canalisations remplies d'eau où il va séjourner, où la pulpe va se retirer toute seule. Une fois dépulpé, il est mis sur des aires de séchage. Mais le gros problème de ce traitement qui améliore le café, c'est que si les ouvriers qui en assurent le traitement ne sont pas très très vigilants, il se peut que, ou soit dans les canaux de dépulpage, soit sur les aires de séchage, des fèves se trouvent retenues et remouillées plusieurs fois, ce qui les rend fermentées et peut donner un goût épouvantable au café.
Je suis de ceux qui ont été obligés de renoncer au café. Et je finis cet article en racontant comme quoi j'ai été un jour rigoureusement soumis à son pouvoir. Le duc de Massa, pour leur ministre de la Justice, m'avait demandé un travail que je voulais soigner et pour lequel il m'avait donné peu de temps, car il le voulait du jour au lendemain. Je me résignais donc à passer la nuit. Et pour me prémunir contre l'envie de dormir, je fortifiais mon dîner de deux grandes tasses de café également fort et parfumé. Je revins chez moi à 7 heures pour y recevoir les papiers qui m'avaient été annoncés. Mais je n'y trouvais qu'une lettre qui m'apprenait que par suite de je ne sais quelle formalité de bureau, je ne les recevrais que le lendemain. Ainsi désappointé, dans toute la force du terme, je retournai dans la maison où j'avais dîné et j'y fis une partie de piquet sans éprouver aucune de ces distractions auxquelles je suis ordinairement sujet. J'en fis honneur au café. Mais tout en recueillant cet avantage, je n'étais pas sans inquiétude sur la manière dont je passerais la nuit. Cependant, je me couchai à l'heure ordinaire, pensant que, si je n'avais pas un sommeil bien tranquille, du moins, je dormirais 4 à 5 heures, ce qui me conduirait tout doucement au lendemain. Je me trompais. J'avais déjà passé 2 heures au lit, que je n'en étais que plus réveillé. J'étais dans un état d'agitation mentale très vive et je me figurais mon cerveau comme un moulin dont les rouages sont en mouvement sans avoir quelque chose à moudre. Je sentis qu'il fallait user cette disposition, sans quoi le besoin de repos ne viendrait point. Et je m'occupai à mettre en vers un petit conte que j'avais lu depuis peu dans un livre anglais. J'en vins assez facilement à bout. Et comme je n'en dormais ni plus ni moins, j'en entrepris un second. Mais ce fut inutilement. Une douzaine de vers avaient épuisé ma verve poétique et il fallut y renoncer. Je passai donc la nuit sans dormir et sans même être assoupi un seul instant. Je me levai et passai la journée dans le même état, sans que ni les repas ni les occupations y apportassent aucun changement. Enfin, quand je me couchai, à mon heure accoutumée, je calculais qu'il y avait 40 heures que je n'avais pas fermé les yeux.
Nous sommes dans le bureau de Charles Paris, hein, qui est négociant au Havre, en café. Qu'est-ce que c'est qu'un négociant exactement ? En quoi consiste son travail ?
Dans le sens très large, le négociant est en principe, en ce qui concerne le café, bien entendu international, puisqu'il ne peut pas acheter son café autrement que dans des pays étrangers, et peut se contenter de faire du négoce entre différents pays, producteurs et consommateurs. Et il va faire ce que l'on appelle de la vente de documents, c'est-à-dire qu'en réalité, il ne verra jamais la marchandise. N'ayant pas d'implantation à l'origine, c'est-à-dire dans les pays étrangers, je refuse un petit peu le titre de négociant, je me dis plutôt importateur-distributeur. Et j'importe le café soit au Havre, soit à Marseille, en principe au Havre, et au départ du Havre, après en avoir reconnu la marchandise, alors là je ne suis pas un négociant de documents, mais je suis un négociant de marchandises, et je la distribue à ma clientèle de torréfacteurs, qui est une clientèle de petite et moyenne importance. Le marché français, bien sûr, n'est couvert qu'à 15-20% par cette clientèle de spécialistes et au reste 75% par des torréfacteurs industriels. Le marché du café est très particulier puisque je crois que c'est le seul marché de matières premières qui soit dirigé, contrôlé par une organisation internationale qui s'appelle l'Organisation internationale du café. Le siège de cette organisation internationale est à Londres. Cet accord international a été institué dans les années 1960, je crois 1962, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, avec l'aide des Américains. Donc, dans les années 1960, les États-Unis, inquiets de l'appauvrissement des pays producteurs, dont dépendait l'économie en moyenne à 50% de leurs exportations de café, se sont souciés de modérer un petit peu les fluctuations à la baisse du café. Et sous l'égide, comme je le disais, de l'ONU, on a réussi à rassembler un grand nombre de pays producteurs et un grand nombre de pays consommateurs, bien entendu, ceci étant des pays occidentaux. Les pays de l'Est étant toujours refusés à adhérer à cet accord international, leur consommation de café étant très inférieure à ce qu'elle est dans les pays occidentaux, et leurs importations faisant plutôt l'objet de trocs plutôt que d'un circuit commercial courant.
Par parenthèse, la France, je crois, est le second consommateur de café à peu près dans le monde.
Non, le troisième seulement. Derrière les USA, qui représentent 17 millions de sacs à eux tout seuls, la France représente que 5 millions de sacs, et l'Europe, y compris les pays non membres de la Communauté économique européenne, représente 35 millions de sacs.
Où en sont les cours du café en ce qui concerne cette année?
Le moindre événement influence les cours du café. Alors, comme il n'y a pas eu de gelée depuis 3 ans au Brésil, il y avait une tendance à une reconstitution de stocks importante qui pouvait nous menacer de surstockage, de surproduction. Bon, depuis 2 mois, alors que nous avions passé le mois de juillet, qui est l'hiver brésilien, sans problème, par contre, sévit, comme dans les pays européens, une sécheresse épouvantable au Brésil. Et depuis 1 mois, alors que le café avait sensiblement baissé, aidé en cela par la baisse du dollar, mais ça c'est un autre problème, les conséquences qui ont pu être évaluées sur les conséquences de la sécheresse au Brésil sont d'une telle importance que en 15 jours, le marché a repris 20%. Ce qui est énorme, étant donné que le café vert étant à peu près commercialisé en moyenne à 25 francs du kilo, vous voyez ce que représente 20% sur cette somme. Alors bien sûr, en ce moment, le dollar nous aide un petit peu parce qu'il baisse, mais malheureusement, actuellement, il ne baisse pas assez pour compenser la hausse du marché.
Justement, puisque nous sommes à parler des cours de la bourse, je vois que derrière vous, il y a un écran où vous notez régulièrement toutes les fluctuations, la Coffee New York.
Alors, cet écran est en réalité un terminal d'ordinateur qui nous relie à un ordinateur de Reuters et qui nous donne instantanément les cours des bourses de New York, Londres et Paris-Le Havre, ainsi que l'évolution des monnaies également instantanément sur les bourses de Paris, Londres et New York. Donc, les cours de la marchandise comme des monnaies dans lesquelles nous traitons, qui sont principalement le franc, donc, qui ne pose pas de problème pour les cafés en provenance de la zone franc, c'est-à-dire d'Afrique, pour la majeure partie. Les cafés que nous traitons par le marché à terme de Londres, que nous traitons donc en livres sterling. Et enfin, les cafés que nous achetons dans bon nombre de pays en dollars. Donc, il nous faut être constamment au courant de l'évolution, non seulement des cours du café, mais également du cours du dollar, pour traiter des affaires au fil de la journée. Et il n'est pas rare de voir les effets conjugués des fluctuations des cours du café et de la monnaie dépasser très largement nos marges bénéficiaires à l'importation en un quart d'heure. Il m'est arrivé de téléphoner avec un client, de lui faire une affaire à un prix donné, et le temps de lui demander des nouvelles de sa santé et aux besoins de sa petite famille, de m'apercevoir qu'en 10 minutes, mon bénéfice avait été largement dépassé par une hausse brutale du dollar, par une hausse brutale du marché, étant donné que nous avons à peu près 2% de marge brute, et les fluctuations dollar et marché peuvent atteindre dans l'heure 3-4%. Alors tout serait merveilleux si nous n'avions pas des problèmes politiques qui se greffent sur notre profession. Au sein de l'accord international, nous sommes un petit peu embrigadés avec nos partenaires européens. Mais l'ennui, c'est que en ce qui concerne l'accord international, les pays producteurs qui sont pour la plupart des pays en voie de développement n'ont pas les structures qui permettent des contrôles efficaces des engagements qu'ils prennent au sein de l'accord international pour respecter leur contingent sur les différents pays consommateurs. Et ces pays producteurs ont confié aux pays consommateurs le soin de contrôler l'application des règles de l'accord international. La France, qui est toujours la main sur la couture du pantalon, respecte intégralement les règles de l'accord international, alors que malheureusement, certains pays sont beaucoup plus laxistes, le business d'abord, et sont très tolérants en matière d'importation.
Comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre profession, Charles Paris ?
Pas de façon très optimiste, vu la concentration de l'agro-torréfaction, qui a fait donc disparaître des torréfacteurs industriels, mais régionaux, qui avaient besoin de nos services. Maintenant, en 10 ans, les torréfacteurs industriels sont passés de 30 à 4. Ces 4 gros torréfacteurs n'ont absolument pas besoin du commerce traditionnel d'importation pour faire leurs affaires. Or, actuellement, le consommateur qui consomme du café industriel, qui profite de promotions sauvages dues à ces détournements de café dans le cadre de l'accord international, fait que le consommateur a bien du mal à faire l'expérience de payer un café pratiquement le double chez un spécialiste que ce qu'il trouvera en promotion dans la grande distribution. Et d'ailleurs, l'ensemble des professionnels du café vert traditionnel et les torréfacteurs dont je vous parle de petite et moyenne importance sont réunis au sein d'un comité français du café. Ce comité français du café a comme objectif principal de faire savoir aux consommateurs qu'il y a café et café comme il y a vin et vin.
C'était Les Avatars du goût, l'épopée du café, troisième volet d'une série de 5 proposée par Marie-Christine Navarro pour les Chemins de la connaissance, diffusée la première fois le 25 décembre 1985 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.